Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les chrétiens du Moyen-Orient s'apprêtent à célébrer Noël dans l'ensemble de la région. Une présence bimillénaire dont on trouve la trace dans tous les pays de la région, des côtes africaines au bord de la mer Rouge jusqu'en Asie centrale. Vincent Gélot est allé à leur rencontre lors d'un périple en voiture qu'il raconte dans un livre publié chez Albin Michel. Un voyage de plusieurs mois dont il a ramené des photos, des souvenirs parfois cocasses, souvent forts, et des témoignages d'une vitalité étonnante. En septembre dernier, les autorités du Kurdistan irakien décidaient d'organiser un référendum d'autodétermination jugé illégal par Bagdad. Si le oui l'a emporté à plus de 90%, ce résultat a eu pour effet d'inciter l'armée irakienne à se déployer dans des zones tenues par les Peshmerga, reprenant au passage le contrôle de certaines grandes villes dont Kirkouk. Monseigneur Pascal Golnisch est directeur général de l'œuvre d'Orient et chargé des relations avec les chrétiens orientaux. Voici ce qu'il pense de ce référendum et de ses conséquences au micro de Geneviève Delru.
Je pense d'une manière générale que lorsqu'on prive un peuple de ses droits, eh bien, on suscite la violence. Je rappelle que après la Première Guerre mondiale, dans les traités qui ont suivi le traité de Versailles, il était prévu de créer un Kurdistan. D'une certaine manière, on avait pris l'engagement moral auprès des Kurdes de leur permettre de vivre dans un pays indépendant, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On ne voit pas pourquoi les Kurdes n'auraient pas droit à un État. Et puis on a refait ce traité pour faire plaisir à la Turquie moderne et on a renoncé à la création d'un Kurdistan. Et bien ce problème n'ayant pas été traité en temps voulu, ressurgit avec les risques de violence que cela peut susciter. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'il faut pas bousculer non plus, qu'il faut déjà que le Kurdistan progresse vers une autonomie croissante. Il faut que l'Irak, proprement dit, d'ailleurs, se reconstruise et s'apaise dans ses tensions internes pour après ça peut-être envisager autre chose. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais il est tout de même très inquiétant que beaucoup de pays voisins s'oppose à cette indépendance et c'est dangereux. La Turquie a déjà pénétré avec des troupes en Irak et en Syrie. Je suis très étonné que cela paraisse banal, normal et sans problème. Les Turcs sont les descendants de l'Empire ottoman, ils ne peuvent pas renier cet héritage. Et le retour de troupes turques en Irak et en Syrie, même si c'est pour chasser le Daesh, même si c'est pour je ne sais quelle raison, il me semble être de nature extrêmement dangereuse. Voilà. Après ça, un référendum ne fait pas l'indépendance. Le Kurdistan connaît une crise économique parce que le pétrole est sans doute moins important qu'on ne le pensait. Il vaut moins cher. Il y a une crise politique. Il y a des dissensions entre les Kurdes d'Erbil et ceux de Sulaymaniyah. Et donc c'est dans ce fond de tension que ce référendum a lieu. Mais surtout aussi, je pense que ça peut être très dangereux pour les chrétiens parce que les chrétiens ne sont protégés par personne. Les Kurdes ont une armée. Bagdad a une armée. La Turquie et l'Iran ont une armée. Les chrétiens, au milieu de tout cela, sont vulnérables.
Les chrétiens d'Orient, sous la menace des forces armées des différents pays de la région, ce n'est pas nouveau. Pourtant, ces populations chrétiennes, quelle que soit la particularité de leur église, sont bien décidées à vivre et à prospérer dans les régions qu'elles occupent. Un jeune aventurier, membre de l'œuvre d'Orient, est allé à leur rencontre lors d'un long voyage en 4L Renault. Vincent Gélot nous explique la genèse de cet incroyable périple. Vincent Gélot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé un long périple au Moyen-Orient à la rencontre de communautés chrétiennes orientales. C'était dans les années 2014-2015. Cela fait d'ailleurs l'objet d'un livre qui est publié aux éditions Albin Michel. Alors, pendant combien de temps ce voyage est... Qu'est-ce qui vous a poussé à le réaliser ?
Alors, d'abord, il a pris naissance au Liban. Enfin, je termine mes études au Liban en début 2012. Et c'est au Liban que je découvre, disons, les églises d'Orient. Cette myriade de communautés ce sont des Coptes, des Maronites, des Chaldéens, des Syriaques, que je ne connaissais absolument pas. Moi, je terminais mes études comme n'importe quel étudiant. J'étais pas forcément un fondu d'église. Voilà, je viens d'une famille de tradition catholique, mais sans plus. Et puis là-bas, je découvre cette histoire. Il y avait des réfugiés qui arrivaient d'Irak, notamment des grandes villes, Mossoul, Bagdad, Bassora, où ils étaient plus en sécurité. C'était avant qu'ils soient chassés de la plaine de Ninive en 2014, c'était début 2012. Et enfin, il y avait le pape Benoît XVI qui venait au Liban pour l'exhortation apostolique médio-orientée. C'était donc la venue d'un pape, s'il y a toujours une attente pour n'importe quel pays, mais au Liban, qui est un pays qui a aussi ses propres fragilités, ses propres tensions communautaires, avec la situation en Syrie, dans la Syrie voisine, c'était très important, et ça, ça a été le moteur du voyage. Et ce voyage donc a duré 2 années, de 2012 à 2014.
À bord d'une 4L.
Alors, à bord d'une 4L, voilà.
Renault, donc un vieux véhicule en quelque sorte.
Un vieux véhicule qui date de 88, qui est à mon âge. Et cette 4L s'appelait la Habibi Mobile. Voilà, quand j'ai monté ce voyage, il fallait un moyen de locomotion qui soit à la fois endurant et solide. Donc, une 4L, c'est endurant et solide. Et qui soit aussi rustique, simple. Et je voulais pas d'un gros 4x4, je voulais un véhicule sympathique. Et donc, ça a été cette 4L. Elle a été customisée par un ami artiste, Augustin Frison-Roche, avec des symboles de l'Orient chrétien. Ça a été ma maison et mon moyen de locomotion.
Et où êtes-vous allé précisément pendant tout ce périple?
Alors, premier objectif, donc je suis parti de France. Le but, c'était de rejoindre le Liban. Donc, je m'étais donné un mois pour rejoindre le Liban. Et depuis le Liban, donc le pape Benoît XVI arrive. Et à partir de là, c'était une vingtaine de pays d'Orient. Le vaste Orient, parce qu'il n'y avait pas que le Moyen-Orient, donc il y avait Liban, Turquie, Irak, les pays du Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, l'Iran, les pays d'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, l'Afghanistan, retour sur les pays du Golfe Persique, Émirat, Oman, Yémen et la Corne de l'Afrique, donc Djibouti, Éthiopie, Soudan, Égypte, Jordanie, et j'ai terminé en Terre Sainte.
Avez-vous rencontré des communautés chrétiennes dans tous ces pays?
Oui. Dans tous ces pays, j'en ai rencontré. On va dire qu'il y a eu deux grands cas de figure. Il y a eu les églises d'Orient, les églises autochtones de cet Orient-là. Donc c'est le Liban, c'est l'Irak, c'est l'Iran, c'est la Turquie. Et puis des communautés d'Asie centrale, par exemple, qui sont plus petites, plus isolées, moins nombreuses, mais qui sont présentes. Même en Afghanistan, où il y a une chapelle, par exemple à Kaboul.
Vous voulez dire que dans ces pays comme l'Iran, le Liban, bien sûr, mais aussi l'Irak, il y a encore des communautés chrétiennes qui fonctionnent officiellement?
Bien sûr, ce sont des communautés natives de ces pays-là, donc elles sont là depuis des siècles, depuis 2000 ans j'ai envie de dire. Au Liban, elles sont encore nombreuses, elles sont 30% de la population est chrétienne au Liban. Même si leur nombre diminue dû à l'émigration et aux difficultés qu'elles rencontrent, notamment en Irak, en Syrie, elles sont encore nombreuses. En Irak, on a encore entre 200 000 et 250 000 chrétiens, 65 000 en Iran. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui ont leur langue, leurs coutumes, leurs traditions, qui sont voilà pacifiques, ouverts sur le monde, mais qui vivent dans ce monde. Elles ne sont pas dans un flacon de formum, elles sont bien vivantes.
Plus étonnant, dans la péninsule arabique, de trouver encore des chrétiens aujourd'hui, notamment au Yémen.
Alors voilà, c'est intéressant. Alors, la péninsule arabique est très particulière parce que les chrétiens qui sont en Arabie Saoudite, c'est pas du tout comme aux Émirats Arabes Unis. Et au Yémen, c'est encore différent. Donc c'est vrai qu'aux Émirats Arabes Unis et au Sultanat d'Oman que j'ai traversé, c'est des pays relativement ouverts par rapport à leurs voisins, par exemple d'Arabie Saoudite. Les émirs ont donné un terrain aux chrétiens que les différentes églises se partagent. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des sortes de parcs d'églises où vous avez les coptes à côté des arméniens, à côté des protestants, voilà, de toutes ces églises. Le Yémen, c'est différent. Le Yémen, les communautés sont plus petites. Il y a à peu près, doit y avoir à peu près 2000 chrétiens au Yémen. Dans une situation relativement difficile à cause de l'insécurité générale qui touche le pays et puis les attentats ciblés dont ils sont victimes, voilà, comme ça a été le cas notamment avec les sœurs de Mère Teresa qui ont été assassinées par des islamistes, voilà.
Quel accueil avez-vous reçu dans chacune de ces communautés?
D'abord un très bon accueil dû à la tradition d'hospitalité orientale. Ensuite, l'accueil a été bon. Des fois, il y avait de la méfiance aussi parce que j'étais un jeune Français avec ma petite bouille de jeune homme qui arrivait avec une 4L peinture leurrée. Si vous voulez, c'était un peu étonnant dans des coins où ils ont peu de visiteurs, peu d'étrangers et encore moins des jeunes Français avec une 4L. Donc, il y avait ce stade-là. Ce qui explique aussi pourquoi ce voyage a duré si longtemps, parce que quand j'arrivais dans une communauté, je pouvais pas rester 2 jours, prendre des photos et partir. Voilà, quand j'arrivais dans un monastère syriaque orthodoxe du fin fond de la Turquie, il fallait qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe, qu'on s'apprivoise les uns et les autres. Et ensuite, à la fin, je voulais qu'ils écrivent dans ce fameux livre d'Orient qui a voyagé avec moi. Et donc, ce qui explique pourquoi ce voyage a duré si longtemps, mais si vous voulez, ça s'est fait, les liens se sont noués petit à petit, des liens d'amitié, de confiance. Et puis parfois, c'était du touch and go. Parfois, j'arrivais dans une communauté, c'était dense, c'était intense, puis je repartais. J'étais en itinérance, mais l'accueil était excellent. Et puis, le fait de rencontrer des communautés qui sont pas nombreuses, pas forcément nombreuses, où les gens finalement s'intéressent pas forcément à eux, qui va s'intéresser aux chrétiens du Kazakhstan ou même d'Afghanistan? Ils étaient contents de voir qu'il y avait quelqu'un qui venait les voir eux, qui s'intéressait à eux. Non, l'accueil a été excellent de façon générale.
Est-ce que ces communautés sont totalement intégrées dans leur environnement et sont totalement légitimes là où elles vivent?
Alors oui, elles sont intégrées, légitimes elles le sont parce qu'elles sont natives de ces endroits-là, et j'ai envie de dire, même si elles étaient expatriées, j'ai rencontré des communautés chrétiennes, d'expatriés, qui participent à la vie ecclésiale de ces pays-là, qui vivent là-bas, donc elles ont aussi le droit de vivre dans ces pays-là, et oui, elles sont intégrées, ce sont des communautés, alors elles ont parfois leur dialecte, entre eux, elles peuvent parler syriaque, elles peuvent parler chaldéen, elles peuvent parler leur dialecte, mais elles parlent la langue, elles parlent arabe. Parfois, elles parlent la langue du pays. Donc, elles participent pleinement à la vie économique, à la vie sociale de ces pays-là, même si c'est difficile. Alors, chaque pays a sa propre situation, sa propre histoire. Les chrétiens d'Irak, c'est pas les chrétiens de Syrie, qui ne sont pas les chrétiens du Liban, et encore plus pour les pays d'Asie centrale. Donc, chaque pays est à prendre dans son contexte, chaque région de ce pays, chaque village, qui est différente de celle du village d'à côté. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce voyage, c'est de voir, d'aller dans des pays dont on entend parler à cause de l'actualité, l'Irak, la Syrie notamment, d'aller dans des pays qu'on ne connaît pas, l'Azerbaïdjan, Turkménistan, et de voir s'il y avait des communautés, si oui, combien elles avaient d'adeptes, quelle était leur histoire, leur identité, etc.
Est-ce que ces communautés sont acceptées en général par notamment les pouvoirs locaux, les autorités locales ?
Alors, ça dépend. Bien souvent, oui. Elles sont acceptées, elles sont tolérées parfois. Par exemple, mais prenons l'Iran. En Iran, les chrétiens ils ont des députés au Parlement, elles sont acceptées, elles ont la liberté de culte. Mais en revanche, dans la constitution islamique de l'Iran, il y a tout un tas, disons, d'injustices qui sont inscrites dans la loi, qui fait que, par exemple, un chrétien ne peut pas avoir de poste dans la haute fonction publique. La conversion est punie de mort. Voilà, il y a aux yeux de la justice, leur voix compte moins que celle d'un musulman. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait qu'au final, elles ont un statut de citoyen de second rang. Et puis, ces communautés sont souvent prises dans le feu de l'histoire. Voilà, ce sont des communautés qui deviennent de plus en plus minoritaires, donc qui sont moins importantes. Et on voit par exemple en Irak, elles sont prises aujourd'hui dans un conflit sunnite chiite qui les dépasse, avec la question kurde aussi, elles sont prises entre les deux. En Syrie, c'est pareil, elles sont prises dans une guerre qui n'est pas la leur, qui les dépasse. Et puis les fondamentalismes, etc., qui jouent. Et puis il y a aussi cette diaspora chrétienne d'Orient qui est répartie en Europe, en Amérique, en Australie, qui crée aussi un appel d'air. Donc, j'ai envie de dire que c'est des communautés qui se cherchent aujourd'hui, qui sont de façon générale en difficulté, mais tout de même, il faut souligner que j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Mon voyage, c'était avant que l'organisation État islamique déferle. Je voulais aussi montrer que ces communautés étaient bien vivantes, qu'il y avait beaucoup de beauté parmi elles, que parfois elles étaient en renouveau aussi. L'église copte, par exemple, connaît un grand renouveau, beaucoup de vocations. Les monastères n'ont jamais été aussi fréquentés qu'aujourd'hui. Enfin voilà, il y a quand même, ce sont des communautés qui continuent de vivre. La paysannerie copte est très active, même si elle connaît aussi elle a des difficultés, et celle qu'on entend dans l'actualité.
Alors, pendant tout le long de ce périple, vous avez fait signer un journal, en l'occurrence un livre d'or ou d'Orient, on pourrait l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui remonte en général sur ce livre? Qu'est-ce que les gens ont inscrit sur ce livre?
Alors, les gens ont inscrit dans ce livre d'Orient leur histoire, d'où ils venaient. Parfois, c'était des petits messages, parfois des longs témoignages. Parfois, c'était sous forme d'icônes, de fresques, de poèmes. Les gens ont eu différentes façons d'exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'est ce que je leur demandais quand je les rencontrais. Je leur disais, dites-moi ce que vous voulez. Je leur disais pas quoi écrire. Et donc, c'est leur histoire, parfois qui ils étaient, d'où ils venaient. Parfois, ils ont marqué la liste des paroissiens dans les micro-paroisses du Soudan, par exemple. C'est très touchant. Et puis, parfois, leurs craintes, leurs espérances aussi, leurs peurs. Parfois, il y a des appels à l'aide. Mais il y a aussi eu dans ce livre, qui est très beau, visuellement très beau, parce qu'il y a une vingtaine de langues et dialectes, vous imaginez, dans tout ce vaste Orient, des choses absolument magnifiques, des fresques qui ont parfois coûté des jours de travail à ces communautés. Parce que faut savoir que ce livre, quand j'arrivais dans une communauté, par exemple en Afghanistan, les gens là-bas découvraient tous les messages qui les avaient précédés jusqu'à eux. Donc vous imaginez, pour des micro-communautés, découvrir des témoignages de chrétiens du Liban, de Turquie, d'Irak, du pays du Caucase, d'Iran, et tout, jusqu'à eux. C'était énorme pour elle. Et ce livre m'a complètement dépassé pendant mon voyage. C'était pas juste un voyage, et ce livre a apporté autre chose. Ça a été une espèce de bombe, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que ce livre apportait beaucoup de joie. Et je sentais que dans mon petit voyage que je faisais tout seul en 4L, mon petit voyage artisanal avec toutes les difficultés que je rencontrais, ce livre apportait quelque chose de fantastique. Et en plus, ce livre arrivait à Jérusalem, c'était la destination finale du voyage. Et Jérusalem, c'est un nom qui résonne dans l'esprit des gens. En plus, parmi ces gens-là n'auront peut-être jamais l'occasion d'y poser les pieds. Et donc, un livre qui allait finir là-bas, c'était un peu eux-mêmes qui m'accompagnaient en laissant, en griffonnant dans ce livre, et qui m'accompagnaient avec ma 4L jusqu'à Jérusalem. Le dernier à écrire, c'est le pape François, qui écrit le dernier témoignage du livre d'Orient. Alors ce livre, en fait, c'est une sorte de carnet de voyage illustré avec des photos et des textes aussi. Le but, c'est d'embarquer le lecteur avec moi, un lecteur qui n'est pas forcément familier de l'Orient ou des communautés chrétiennes, de l'embarquer avec moi et de découvrir, tel que je l'ai découvert avec mes yeux neufs, ces communautés-là. Et donc, on découvre on voit à quoi ressemblent des chrétiens du Soudan, des chrétiens du Golfe Persique, d'Iran, de Liban, du Kazakhstan, avec donc dedans aussi des enregistrements audio. Donc le lecteur peut écouter à travers des flashcodes avec une application, peut écouter les différents chants, les chants sacrés de toutes ces communautés. Et puis en effet, il y a des extraits du livre d'Orient qui est exposé à l'Institut du Monde Arabe. Donc les pages les plus fortes, les témoignages les plus les plus révélateurs, les plus significatifs. Et les plus beaux aussi, les pages les plus belles.
Après ce périple, vous avez continué à être en résonance avec le Moyen-Orient. Qu'avez-vous fait finalement après 2014-2015?
Ce qui s'est passé, c'est qu'à mon retour de voyage en septembre 2014, la situation avait changé parce que l'organisation État islamique avait pris Mossoul en juin 2014. En août, il s'empare des villages de la plaine de Ninive, des villages que j'avais traversés 2 ans plus tôt avec ma 4L. Les gens m'avaient accueilli, donné l'hospitalité et je me suis dit, mais que sont devenus tous ces gens-là? Et donc je sentais que j'avais très envie d'y retourner. Et il y a eu donc la Guilde européenne du RAID, soutenue par l'œuvre d'Orient, d'autres associations, mettait en place une radio dédiée aux réfugiés et aux déplacés sur le Kurdistan irakien à Erbil. Et donc j'ai participé à la création de cette radio avec un collègue, Pierrick Bonneau. Et ensemble, on a monté cette radio. Et de fil en aiguille, je suis resté 1 an et demi en Irak, après mon retour, la fin de mon voyage. Et j'étais là-bas l'antenne pour l'œuvre d'Orient. Avant mon départ, qui était la seule association à avoir cru un peu en cette folie, en cette équipée qui était irréalisable en fait sur le papier. Donc qui m'avait donné un petit coup de main financier, quelques contacts. Et donc, de fil en aiguille, je suis devenu leur antenne sur place pour répondre à l'urgence des déplacés qui étaient arrivés là. Et ensuite, et aujourd'hui, j'habite au Liban. Et de là, je rayonne sur la Syrie, sur l'Irak et la Jordanie, notamment pour répondre à l'urgence humanitaire que connaissent ces communautés chrétiennes.
Et vous revoyez parfois ces communautés des gens que vous aviez vus il y a 3 ou 4 ans?
C'était quand je suis retourné en Irak en 2014, j'ai retrouvé des gens qui m'avaient accueilli, qui m'avaient vu passer avec ma 4L, on s'est tombé dans les bras. C'était très émouvant et depuis, ce sont devenus des amis, j'ai beaucoup d'affection. C'est un lien affectif que j'ai d'abord avec ces communautés. Moi, j'avais pas fait d'études sur les langues de ces communautés-là. D'études, c'était vraiment une rencontre de découverte. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est un lien affectif. Et ce qui, pendant mon voyage, était de l'ordre du lyrisme, et c'est dans ce livre qui sort, c'est un livre qui est dur, mais qui est aussi, qui est un livre aussi de voyage, de découverte. Il y avait beaucoup de lyrisme, il y a beaucoup de références littéraires aussi, de voyages spirituels. Et puis, aujourd'hui, c'est plutôt le temps de l'engagement. Maintenant, je suis sédentaire en Orient. Depuis, je me suis marié, je vais avec ma petite famille là-bas. Donc voilà, je suis plus sur du temps long. Ma vie, c'est même pas mon travail, c'est une mission, une vocation, c'est d'être aux côtés de ces communautés-là, de les accompagner pour le meilleur et pour le pire.
Et aujourd'hui, c'est plutôt le meilleur ou plutôt le pire pour ces communautés?
C'est le pire, mais dans le pire, il y a toujours du bon.
Merci Vincent Angelot.
Merci à vous.
Et je renvoie à votre livre « Chrétien d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé ». C'est aux éditions Albin Michel. Mathias Golshani a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo, une émission de RFI que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ou retrouver sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal d'information.